Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque samedi, nous plongeons dans le portrait biographique et documentaire d'une femme ou d'un homme d'exception. Entre découvertes, connaissances et émotions, nous nous engageons sur la piste de toutes celles et ceux qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bienvenue dans Toute une vie. Le musée Marmottan-Monet organise jusqu'au 5 juillet 2020 une exposition inédite intitulée « Cézanne et les maîtres, rêves d'Italie ». Pour la première fois, l'œuvre de l'Aixois sera mise en regard des chefs-d'œuvre des plus grands maîtres italiens du XVIe au XIXe siècle. L'occasion de redécouvrir le documentaire de Christine Le Cerf et Jean-Claude Loiseau, Paul Cézanne, 1839-1906, c'est toute une vie de sensations colorantes.
Cézanne avait un atelier près de la place Pigalle. Je revois la rue et je revois l'escalier, la maison, très bien. Et je revois le jeune Paul Cézanne, qui est devenu mon ami, enfin qui était mon très grand ami. Enfin, à un point tel que les deux familles étaient comme la même famille. Nous ne considérions pas que d'aller chez les Cézanne, c'était aller autre part. C'était rester un peu chez les Renoir et vice-versa.
Jean Renoir, 1959.
Mais enfin, je me rappelle de Cézanne dans son atelier. Ce qui m'avait frappé, c'était le côté broussailleux de son visage. Il semblait qu'il n'y avait que des poils, un peu comme un chien barbé. Et une autre chose qui m'étonnait, c'était une bouillotte pleine de thé très noire qui n'arrêtait pas de bouillir sur le grand poêle godin qui était au milieu de l'atelier. Et Cézanne buvait de ce thé constamment. Il m'avait regardé beaucoup. Chaque fois, il me regardait très attentivement. Et avec un très fort accent du midi, il disait « Eh bien, ce petit, alors, qu'est-ce qu'il va faire dans la vie ?»
Quand on vient dire que les enfants du Tolonnais, n'est-ce pas, lui jetaient des pierres, ce n'est pas vrai. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Le Tolonnais a toujours respecté Cézanne. On l'appelait monsieur là-bas.
Paul Roubaud, maire du Tolonnais, 1939.
J'ai vu le père Cézanne comme tous les gens le voyaient à ce moment-là, avec son constat légèrement délavé par la pluie et une jaquette. Je ne l'ai jamais vu en blouse, non. C'est encore peut-être dans l'ancien temps, peut-être quand il était plus jeune, mais à ce moment-là, il partait sur le motif. Il partait sur le motif en voiture d'abord, en calèche. Non, le père Cézanne, n'est-ce pas, eh bien, était un bon petit bourgeois. Il avait l'allure bon petit bourgeois, avec sa petite barbiche en pointe, n'est-ce pas, et qui, à mon avis, moi, me le faisait ressembler un peu à un faune.
Paul Cézanne, 1839-1906. Je vous dois la vérité en peinture, et je vous la dirai.
On nous a rapporté certaines maximes attribuées à Cézanne, mais c'est un personnage un peu légendaire parce qu'il a renoncé à Paris, il poursuit ses recherches tout seul. La peinture à la mode, les peintres un peu branchés, si vous voulez, à Paris à l'époque, savent qu'il y a cette espèce d'ermite d'Aix qui fait des trucs invraisemblables. Et parfois, ils font le voyage à Aix pour voir ce qui s'y passe. Et peu à peu, il y a un mythe Cézanne qui se crée, d'autant plus que lui parle peu, il est assez bougon, il déteste qu'on vienne le déranger. Donc, il faut vraiment insister pour être reçu par lui. Puis après, il s'attache parce qu'il est très affectif. Et on lui attribue des maximes. Chaque voyageur qui va rendre visite à cette espèce de héros silencieux et misanthrope de la peinture revient avec ses petites notes pour faire son article ou pour ressortir des maximes du maître.
Vous ouvrez quoi de Nicotagne ?
La cuisine du Jas de Bouffon.
L'entrée de la cuisine.
Voilà, vous voyez l'état de la maison. Elle demande à être reprise. Il n'y a pas eu de travaux dedans depuis pratiquement un siècle.
Denis Coutagne, est-ce qu'on pourrait dire que Cézanne, très tôt, a été quelqu'un d'empêché, de contrecarré ?
On peut le dire. Son père voulait qu'il fasse du droit. Il faut dire que son père, Louis-Auguste, avait gagné dans un climat valsacien sa vie, sa notoriété, en devenant banquier, pratiquement le premier banquier d'Aix. Et donc, il avait un fils unique et il fallait que son fils devint banquier. Et Cézanne est mis sur les bancs à faire du droit. Et il écrit des alexandrins. Hélas, j'ai pris du droit la route tortueuse. J'ai pris, n'est pas le mot, de prendre ma forcée, le droit, l'horrible droit d'embâges enlacés, rendra pendant 3 ans mon existence affreuse. Et après, il appelle toutes les muses du Parnasse à venir le secourir. Et ici, au Jas de Bouffon, son père, dans le même temps, lui laisse le grand salon, et il y fait une série de peintures murales éblouissantes, étonnantes, avec une sorte de violence qui donnera à sa peinture, c'est Cézanne qui emploiera ce mot, d'être une peinture couillarde.
A lonely man stood there some time ago.
C'est un émotif, c'est un personnage émotif, voilà, qui supporte mal tout ce qui relève de la familiarité. Son rapport au monde est un rapport distancié, d'où sans doute d'ailleurs des problèmes évidents avec les femmes.
Mon cher, ce n'est pas seulement du plaisir que m'a procuré ta lettre. En la recevant, j'en ai éprouvé de plus du bien-être. Une certaine tristesse intérieure me possède, et vrai Dieu, je ne rêve que de cette femme dont je te parlais. J'ignore qui elle est. Je la vois passer quelquefois dans la rue en allant au monotone collège. J'en suis morbleu à pousser des soupirs, mais des soupirs qui ne se trahissent pas à l'extérieur. Ce sont des soupirs mentaux ou mentaux, je ne sais. J'ai beaucoup aimé te voir ressouvenir du pain qui ombrage les bords de palette. Que j'aimerais, foutu sort qui nous sépare, que j'aimerais te voir arriver. Si je ne me retenais, je lancerais quelques kyrielles de nom de Dieu, de bordel de Dieu, de sacré putain contre le ciel. Mais à quoi bon se mettre en colère? Cela ne m'avancerait de rien, donc je me résigne. À Émile Zola, Aix 1858.
Denis Coutagne, on rapporte que Cézanne aurait dit de ses baigneuses qu'il n'arrivait pas à peindre à les garces. Est-ce que ça dit un peu tout du rapport de Cézanne aux femmes et au corps féminin?
Ça dit en tout cas un peu, peut-être un peu beaucoup. Cézanne a certainement été un homme avec des impulsions très violentes, donc il emploiera le mot couillard pour sa peinture, mais je crois que dans sa vie, en tout cas dans sa vie de jeune homme, il a dû l'être. Il se trouvera une compagne en la personne de Hortense Fiquet, franc-comtoise. On a dit qu'elle était modèle, moi je ne crois pas. Elle correspondait à une femme tranquille, placide, il n'y a qu'à voir les tableaux qu'il fait d'elle. Il y a quand même à peu près une trentaine de tableaux à l'huile et une trentaine de tableaux à l'aquarelle. Il la peint énormément, mais elle est toujours habillée. On voit pas un bout de sa gorge, de ses épaules et de ses seins. Et elle lui donnera un fils. Il va l'épouser, pour dire la chose, en 1886, pour régulariser une situation. Mais enfin, il ne vit presque plus avec elle à ce moment-là. On sait qu'en 1886, il connaît une très grande passion amoureuse avec une dame. Il s'adresse à elle une fois en lui disant « Madame, depuis que je vous ai embrassée, je ne pense plus qu'à vous », etc. Il va jouer un peu à cache-cache avec elle, avec Zola, avec Renoir, pour faire passer des lettres, essayer de la retrouver, pas la retrouver. On ne sait pas exactement ce qu'il en est. Ça dure à peu près une année et demie, et tout d'un coup, silence complet, Cézanne revient. Il a une phrase quand même un peu forte où il dira « Le bordel suffit ». Bon, très bien, les choses sont dites. Et on ne connaît plus aucune aventure de Cézanne, hormis avec la peinture.
Vous savez qu'il supportait mal, par exemple, qu'on lui prenne le bras.
Alain Madeleine Perdria.
Il supporte sans doute assez mal qu'on le touche de quelque façon, quoi. Il faut rester un peu lointain pour qu'il soit heureux. Mais ses amitiés, et ce n'est pas contradictoire, sont d'autant plus chaleureuses, par émotivité aussi. Il a la larme facile aussi, d'une certaine façon. Il a besoin de sentir une vive amitié, et si quelqu'un ne répond pas à ses attentes, la brouille va survenir. Hein, il s'est brouillé avec Gasquet. Hein, il se brouillait sans doute très facilement. Ce qui fait qu'il avait une réputation d'être un peu, comme on dit aujourd'hui, un ours. Hein. On hésitait à aller frapper à sa porte, parce qu'il avait mis aussi sa gouvernante qui filtrait. Hein. Et on craignait toujours un peu ses réactions.
Bruno Elie, nous sommes au musée Granet, à Aix-en-Provence. Et on est là face à deux hommes en un.
Oui, deux hommes en un, puisque c'est un portrait de Zola
par son ami Cézanne et que les deux hommes se sont rencontrés au Collège Bourbon. Ils avaient une dizaine d'années et qu'ils ont ensuite grandi ensemble jusqu'à penser, comme le disait Zola, à une fraternité de génie. Ils avaient 17-18 ans quand Zola dit cela. Donc c'était une belle prémonition aussi. Et en fait, il n'existe pas de vrai portrait de Zola par Cézanne, sinon cette étude rapidement enlevée qui date de 1862-64 et qui se trouve être aujourd'hui la seule trace vraiment tangible en tant que portrait de cette amitié extraordinaire qui a uni les deux hommes, au moins jusqu'en 1886, avec la parution de l'œuvre de Zola, dans lequel Cézanne se serait reconnu et qui aurait consommé leur rupture, qui était en fait déjà assez consommée, de par la vie que chacun avait choisie. L'un, le côté tout de même provocateur, mais mondain malgré tout, qui était Zola, et puis ce Cézanne qui avait décidé, dans les années 1880, de se retirer dans sa Provence natale.
Son père va l'autoriser à monter à Paris, va lui donner des subsides pour vivre à Paris. Mais à Paris, certes, il va rencontrer Pissarro, il va rencontrer Renoir, Monet, Basile, il va se lier avec ceux qui vont devenir les peintres impressionnistes. Il a un ami Zola qu'il a connu à l'école ici à Aix et qui le soutient dans un premier temps. Ils refont Le Monde tous les soirs. En 1866, Zola fait une série d'articles dans la revue, dans le journal L'Événement. Cézanne peint son père en train de lire L'Événement dans un magnifique fauteuil ici au Jas de Buffon. Donc voilà un Cézanne, j'allais dire, à la fois tumultueux, violent, agressif, qui veut et qui est toujours marginalisé. Les impressionnistes ne le reconnaîtront jamais vraiment comme un des siens. Zola lui-même, en 1870, un ami lui demande l'adresse de Cézanne et Zola lui dit « Je ne vous la donne pas, ce peintre ne s'est pas encore trouvé, laissez-le se trouver ». Et je crois que pour Zola, Cézanne ne se trouvera jamais vraiment, dont le fait qu'il y aurait une grande distance de leur amitié.
Et puis il y a cette publication en 86 de l'œuvre qui amène une rupture qui n'était pas simplement liée à la publication de ce livre, mais au fait qu'au fond, dans ce livre, c'est pas tant la présentation d'un peintre raté qui a pu gêner Cézanne, parce que Cézanne s'y attendait, il avait été prévenu du contenu du livre, mais l'utilisation par Zola de souvenirs de leur adolescence, qui était pour Cézanne une sorte d'âge d'or qu'il évoque souvent dans sa correspondance. Et donc cette atteinte aux souvenirs, à des souvenirs magiques au fond pour Cézanne, il n'a pas pu sans doute le supporter.
À Émile Zola, Gardanne, arrondissement d'Aix, 4 avril 1886. Mon cher Émile, je viens de recevoir l'œuvre que tu as bien voulu m'adresser. Je remercie l'auteur des Rougon-Macquart de ce bon témoignage de souvenir et je lui demande de me permettre de lui serrer la main en songeant aux anciennes années. Tout à toi, sous l'impulsion des temps écoulés. Paul Cézanne.
Hormis cette atteinte au mythe de l'âge d'or, il y avait aussi certainement une profonde méconnaissance de Zola quant au génie de Cézanne.
Certainement. Et au fond, c'est d'autant plus troublant qu'il a compris, comme Cézanne, que l'impressionnisme avait fait son temps, qu'il fallait mettre de l'ordre dans la peinture, réorganiser la peinture, ne pas rester au niveau de la sensation et du rendu, aussi parfait soit-il, comme chez Monet, de la sensation. Et c'est extraordinairement troublant, dans la mesure où c'était son ami le plus proche qui était en train de faire ce travail, hein, puisque Cézanne est à l'origine, c'est vraiment le père de l'art moderne, le père reconnu par Picasso, par Matisse, par Mondrian, c'était incroyablement troublant que Zola n'ait pas vu cela. Il n'a pas compris le génie de Cézanne, c'est sûr.
Mm-hmm. Ce regard de Cézanne, il est extrêmement nouveau.
Jacques Dariula.
En un certain sens, il peut faire peur, dans la mesure où il évacue toute culture. Il est en rapport aussi avec le retour aux arts sauvages, aux arts qu'on disait primitifs à l'époque, où on cherchait un contact physique, instinctif, à se ressourcer aux forces vives de la nature, pour ainsi dire. Et il peut déplaire.
Avec le peintre Vincent Biulès au musée d'Orsay.
Voilà, boulevard. Vous avez ce que vous voulez. voyez une nature morte.
Ouais.
C'est quoi?
C'est un tableau.
Qui ne bouge pas.
Vous savez que ça s'appelle autrement aussi, en anglais par exemple. On appelle ça une vie silencieuse. Il n'y a qu'en français où on dit nature morte.
Nature morte à la bouilloire.
Est-ce que tu aimerais l'avoir dans ta chambre? Tu sais que c'est une bonne question. C'est une question qu'il faut toujours se poser devant les tableaux.
Non.
T'as le plus bas.
Non.
Bon, effectivement, cette petite fille n'a pas tort. Il s'agit d'un tableau difficile. Parce que c'est un tableau dont le moteur interne est la lutte de Cézanne avec lui-même. Cézanne est en train de s'arracher à la véhémence de ses premières années de peintre, où il lutte contre une sorte de gaucherie naturelle, un goût extraordinairement fort et sensuel de la réalité, et il mène un combat contre lui-même, avec lui-même, par l'intermédiaire de la peinture. Cézanne a toujours eu beaucoup de mal à cerner les formes, et là, il s'y efforce presque d'une manière tourmentée et volontariste. Quand on voit la manière dont il traite, mettons, le torchon, avec ses ombres noires et violentes, on sent qu'il est encore empêtré dans une difficulté à peindre. Et c'est ce qui donne aussi à ce tableau sa solennité mystérieuse, parce que nous sommes témoins d'une lutte. Et il s'est converti dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire il a tourné le dos à certaines pulsions, à ses hésitations, sûrement aussi peut-être à une sorte d'orgueil formidable, pour inventer une peinture qui l'a complètement libéré. Et il a demandé à la nature morte de lui conférer la solitude dont il avait besoin. Et c'est ce qui lui a permis ensuite de faire les merveilleux portraits qu'il a fait à la fin de sa vie, et de trouver face au portrait une sorte de paix, mais qui lui avait été donnée par l'exercice de la nature morte.
René Huyghe, 1956.
Ce qui est très curieux, c'est justement qu'à partir du moment où il a voulu se discipliner, cet homme qui avait créé des sujets lyriques, il avait fait le viol, le médecin en train de faire l'autopsie d'un cadavre, il avait fait le meurtre, il avait fait l'orgie, c'était un peintre romantique. Et il a compris justement qu'il y avait quelque chose de factice dans le sujet. Et alors il s'est discipliné en prenant des sujets neutres. Puis, quand il a eu obtenu la discipline qu'il cherchait, qu'il a senti qu'il était maître de lui, à ce moment-là, il est revenu à sa jeunesse, mais armé pour être plus fort qu'elle, si je peux dire. Et alors, à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on pourrait appeler la troisième phase de Cézanne, à partir de 1890 environ, il est revenu à l'homme. Mais alors, il a vu l'homme d'une manière tout à fait différente. Il n'a plus vu, dans le côté roman-feuilleton de ces scènes, qui étaient toujours des scènes de terreur ou des scènes d'érotisme, car les deux grands ressorts du premier Cézanne, c'est l'érotisme et c'est la terreur. C'est-à-dire des effets de choc, presque physiologiques. Tandis que l'homme qu'il a vu à la fin, auquel il est revenu, c'est un homme qui nous rappelle beaucoup plus la conception du XVIIe siècle, et le nain, par exemple. Il a aimé le paysan, parce que le paysan est un homme qui vit très authentiquement, qui parle très peu, ce qui était l'opposé, justement, du Cézanne du début, et il n'a plus peint, presque, en dehors de quelques amis, il n'a plus peint que des paysans. Ces joueurs de cartes, ce sont des paysans.
Celui dont Cézanne se réclame, c'est Courbet. Et il y a des Courbets d'ailleurs qui sont très proches de Cézanne, les sources de la Loue, ou bien certaines falaises, certaines combes du Jura, que Courbet peint déjà avec l'épaisseur de pâte et le sens du colossal qui est au cœur de l'art de Cézanne. Et Courbet, c'est un réaliste, voilà. Alors, en quel sens Cézanne est-il réaliste? Il hérite de Courbet l'idée que il faut recevoir le monde sans lui imposer une idée préconçue. Et même le surprendre dans son sommeil. Courbet aimait bien peindre des personnages qui dorment, des natures mortes. Il faut surprendre le monde dans son silence, dans son retrait. L'idéal, ça serait de voir le monde comme il se montre quand personne n'est là pour le voir. Ce qui est une bonne définition de la nature morte, et ce qui est une façon pour cézannienne d'aborder le visible.
Dans des paysages souvent désertés par l'humain.
Toujours. Il n'y a personne. Il n'y a pas un chat.
lorsque la route va vers le village, un motif qu'on trouve souvent chez Cézanne, c'est la route tournante. Donc là, c'est une route qui s'enfonce comme un coin dans un village et on voit jamais, enfin, elle semble se terminer. Elle est, les maisons serrent la route jusqu'à l'annuler. Il n'y a personne sur la route et il n'y a personne dans le village. Il n'y a personne à la fenêtre. Donc c'est un monde désert, comme si la disparition de l'homme était la condition corrélative de l'assomption des choses.
Lestac, 2 juillet 1876. Mon cher Pissarro, il faut que je vous dise que votre lettre m'est venue surprendre à Lestac, au bord de la mer. Je ne suis plus à Aix depuis un mois. J'ai commencé deux petits motifs où il y a la mer, pour M. Choquet qui m'en avait parlé. C'est comme une carte à jouer, des toits rouges sur la mer bleue. Si le temps devient propice, peut-être pourrais-je les pousser jusqu'au bout. En l'état, je n'ai encore rien fait. Mais il y a des motifs qui demanderaient 3 ou 4 mois de travail, qu'on pourrait trouver, car la végétation n'y change pas. Ce sont des oliviers et des pins qui gardent toujours leurs feuilles. Le soleil y est si effrayant qu'il me semble que les objets s'enlèvent en silhouette, non pas seulement en blanc ou en noir, mais en bleu, en rouge, en brun, en violet. Paul Cézanne.
Vincent Bioulès, nous sommes là devant l'un des motifs de Paul Cézanne. Il y a bien sûr la célèbre montagne Sainte-Victoire, mais il y a aussi le golfe de l'Estac, toujours recommencé. Vous connaissez bien ces paysages écrasés de soleil.
Alors j'ai beaucoup regardé ces paysages et bien sûr j'ai pensé à Cézanne. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce tableau, c'est l'exceptionnelle qualité de la matière peinte. C'est un tableau d'une très très grande densité. Et Cézanne a su conserver de sa première période lourde, empâtée, véhémente, le goût des matières. Il l'a conservé longtemps et ce tableau en est un exemple magnifique. Ce qui est très frappant lorsqu'on se trouve à Marseille, c'est que ce n'est pas un lieu où on peut peindre des marines. Les marines, on les a peints, par exemple, Monet a peint les marines sur la Manche, sur la mer du Nord, ou en Bretagne. Tandis que dans le Midi, dans cette région de Marseille, on est confronté à la rencontre des éléments premiers. Vous avez l'air, la lumière, la terre, l'eau et aujourd'hui le ciment. Et ça constitue une sorte de rencontre extrêmement dense et extrêmement violente, presque primitive avec les éléments. Et il y a des rapports extrêmement subtils. Cette grande plaque de zinc qui est la mer, qui est maçonnée, qui est beurrée, et avec des parties qui sont écrasées au couteau, les montagnes qui sont structurées au fond, modelées presque par les touches successives. Il y a une sorte de géométrie interne très très subtile entre les petites vagues, cette jetée un peu mal fichue et les éléments du premier plan et qui constitue une sorte de musique rythmique totalement inattendue si on veut bien la regarder et la savourer comme elle le mérite.
De 64, voyez-vous, à 85, hein, c'est-à-dire 20 ans durant, très régulièrement, Cézanne va à l'Estac. Et probablement avec l'idée qu'il pouvait, comme les impressionnistes, peindre la mer, peindre l'eau. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il va donner de la mer une interprétation, enfin une vision lointaine. Il s'approche pas. Pensez à Courbet, au tableau que Courbet fait en Normandie, les vagues, les célèbres vagues. Il est très près, hein, il est sur la plage, Courbet. Ça n'arrive, pour ainsi dire, jamais, sauf dans 2 ou 3 tableaux d'extrême jeunesse chez Cézanne. C'est pas un homme de l'eau. Monet est un homme de l'eau, Monet est un homme de la neige aussi, des reflets, c'est plus qu'évident. Cézanne est un homme de la terre, Et donc le motif, ce motif pourtant qu'il a bien connu, le motif de la mère à l'Estac, il va à peu près en 85, hein, l'abandonner complètement. Et c'est à ce moment-là que ce motif va être remplacé, si je peux dire, par la Sainte Victoire, qui est un motif complètement terrien, sec.
Cézanne, qui est très souvent proche de Courbet, n'aimait pas beaucoup Paris, qu'il trouvait justement une grande ville à laquelle il se perdait, où il ne se retrouvait pas. En revanche, il n'aimait pas davantage la bourgeoisie d'Aix, où il n'était pas très chez lui, mais la campagne d'Aix, dans laquelle il avait fait de très grandes randonnées avec ses amis dans sa jeunesse, c'était pour lui un décor de, un réservoir de sensations inoubliables, qui sont restés toujours le secret de son art, ce qu'il a toujours cherché à rendre et à retrouver par la médiation de l'art. Et c'est un homme de la nature. Donc voilà, il a des gros godillots, il est parti pour marcher, il a son chevalet qui se démonte et qui fait un sac à dos. Et puis il est bien debout, bien campé, les épaules solides. Là, il a son chapeau parce que ça tape le soleil autour d'Aix. Il le dit dans ses lettres. D'ailleurs, à la fin, dans la correspondance, il est âgé et il dit qu'il peut plus tenir le soleil. Et vraiment, on peut dire que peindre pour Cézanne, c'est faire face au soleil. C'est presque regarder le soleil en face, ou du moins le soleil réverbéré sur la pierre blanche de la Sainte Victoire, sur les pins et qui se fait entendre aussi dans le chant des cigales. Enfin, toute cette tension de lumière, de présence, cette somptuosité phénoménale. Donc on n'y va pas tout nu, c'est un combat à peindre.
Longtemps, je suis resté sans pouvoir, sans savoir peindre la Sainte Victoire, parce que j'imaginais l'ombre concave, comme les autres qui ne regardent pas, tandis que, tenez, regardez, elle est convexe, elle fuit de son centre.
Donc là, de la colline des Lauves sur laquelle nous sommes, qui est une colline qui domine Aix-en-Provence, sur laquelle est posé l'atelier un peu plus bas, donc se voit cette Sainte Victoire dominant la plaine avec ces trois plans que l'on retrouvera sur tous les derniers tableaux de Cézanne. Le premier plan qui est la terrasse des peintres sur laquelle nous sommes, puis une grande plaine qui va ensuite lui-même redresser, puisque Cézanne va d'une certaine façon redresser le monde et là, et donner à cette montagne quand même une élévation et une monumentalité que une photographie ne révèle pas tout à fait.
Regardez cette Sainte Victoire. Quel élan, quelle soif impérieuse du soleil, et quelle mélancolie le soir, quand toute cette pesanteur retombe. Elle participe, toute bleutée, à la respiration ambiante de l'air. Alors ces paroles de Cézanne, ou attribuées à Cézanne par son ami Gasquet, est-ce qu'elles synthétisent, est-ce qu'elles seraient la formule de tout aixois qui se respecte, Denis Coutane?
Elle ne dirait pas tout à fait, à mon avis, ce qu'est la Sainte Victoire pour Cézanne, donc pour tout aixois qui s'inscrit dans les pas de Cézanne. La montagne de Sainte Victoire, d'abord, Cézanne, pendant longtemps, ne la voit pas. Il est peut-être monté dessus avec Zola tout petit. La première fois qu'il en parle, c'est en 1876, en disant qu'elle se balance et quel motif étourdissant se développe du côté de Borcueil. Moyennant quoi, il va la peindre sans jamais nous dire qu'il attaque ce motif. Elle est d'abord très lointaine, vue de belle vue avec le pont de chemin de fer, comme dans les tableaux de Poussin où il y a les aqueducs anciens, et elle a un côté très classique. Ensuite, il va s'en approcher au jas de Bouffon à travers les arbres. Il va aller ensuite vers la route du Tolonnais jusqu'à Château Noir, avec une route qui tourne, un pin très noir, et là elle surgit violente et presque tumultueuse. Et ensuite, il va trouver ce lieu, le seul lieu qu'il peindra. Il va faire une dizaine de tableaux pour donner une série de cette montagne, à la fois classique et en même temps déjà fauve, expressionniste, voire abstraite. Il y a quand même toute une part du travail d'abstraction dans l'œuvre de Cézanne.
Est-ce qu'on pourrait dire que c'est sa cathédrale de pierre à lui?
Oui, on peut dire. Monet s'est mis à quelques mètres de la cathédrale de Rouen et l'a peint une quarantaine de fois, sauf erreur de ma part. Cézanne, bon, il fera une ou deux fois la cathédrale d'Aix, mais de très loin en aquarelle, mais c'est la montagne Sainte-Victoire. En plus, elle avait un côté sacré. De même qu'une cathédrale, pour Monet, forcément, avait un côté quand même aussi un peu sacré. Je pense que cet aspect-là ne peut pas être négligé chez ces peintres-là. Cézanne, c'est la Sainte-Victoire, c'est-à-dire c'est le symbole de la victoire de Marius contre les Cimbres et les Teutons, c'est-à-dire la victoire de la romanité contre la barbarie, ou du côté de l'ordonnancement du monde par rapport au désordre et au chaos. Toute la peinture de Cézanne, c'est d'orchestrer le chaos, de l'organiser et de le maîtriser.
Moi, je crois simplement, pour bien comprendre Cézanne, il faut bien voir que quand on regarde un paysage simplement, partout, ce qu'on voit est totalement chaotique.
Alain Madeleine Perdria.
Au fond, le travail d'un artiste, et d'un artiste peintre en particulier, c'est fondamentalement de mettre de l'ordre, d'écarter certaines choses, d'harmoniser l'ensemble des détails, de trouver des rapports de volume, des rapports chromatiques, etc. Et ça, c'est au cœur de la pensée de Cézanne. L'idée à laquelle je tiens, c'est que le motif n'est jamais donné. Vous voyez, on peut penser, quand on dit que le peintre va sur le motif, c'est une expression qu'il utilise lui-même, Cézanne, hein. Mais au fond, le motif, c'est une création. C'est quelque chose que le peintre fait, qui n'existe pas. Il y aurait cette idée naïve, vous voyez, de croire qu'un peintre, il se promène dans la nature et il cherche le beau point de vue, comme un peu comme un photographe. C'est pas le cas. C'est dans le cas de Cézanne, c'est un homme qui effectivement aime un certain nombre de lieux, qui sont ces lieux qu'il a toujours connus et auxquels il est attaché, mais avec l'idée de reconstruire quelque chose, c'est-à-dire même de changer complètement l'espace. Quand on voit les dernières Saintes Victoires, on voit très bien que tout l'espace est reconstruit, le ciel même d'une certaine façon est reconstruit, puisque le ciel dans la Sainte Victoire du musée de Bâle, par exemple, devient vert, hein, c'est un ciel vert, totalement irréel pour des raisons d'équilibre chromatique.
La peinture est née d'une fiction qui nous fait croire que le monde se déploie sous les yeux du peintre. Et Cézanne est le premier à renverser cette fiction, c'est une révolution considérable, en pensant que le peintre est plongé dans le monde, que le monde l'assaille de toutes parts et que il n'a pas du tout la position confortable de celui qui se trouve dans un fauteuil d'orchestre et qui peut décrire le paysage du monde en le soumettant à la quadrature de la perspective, mais il est plutôt presque comme un noyé, ou du moins il est lapidé, il est supplicié par l'omniprésence du monde. Et autour d'Aix, cette campagne est pleine d'odeurs, est pleine de couleurs, mais elle est très austère, très rude aussi. Et penser que peindre, c'est une activité curieuse. Ça consiste à rester pendant des heures à regarder une branche d'arbre ou une pomme, dans le cas de Cézanne, et à peu entrer dans le silence des choses, dans ce mystère de la présence des choses. Donc oui, c'est lutter, c'est arriver à tenir le coup devant la violence de l'apparaître. Ça, c'est Cézanne.
Tout s'organise, les arbres, les champs, les maisons. Je vois par tâche. L'assise géologique, le travail préparatoire. Le monde du dessus s'enfonce, s'est écroulé comme dans une catastrophe.
Denis Contagne, on pourrait dire que nous nous trouvons sur un des ultimes promontoires de Paul Cézanne.
Oui, nous sommes à l'atelier des Lauves, au-dessus d'Aix, un atelier que Cézanne a construit en 1901-1902. Que la ville a transformé en musée, et sur lequel on retrouve peut-être le plus profondément la présence de Cézanne.
C'est-à-dire ?
Le lieu qu'il a habité, un atelier qu'il a fait construire à sa dimension, un espace de méditation, puisqu'il disait que la peinture est une méditation, le pinceau à la main, et le lieu où il a peint les dernières grandes Saintes Victoires, les grandes baigneuses, des natures mortes, et ce personnage étrange qui est le jardinier Vallier, qui était le jardinier du terrain sur lequel il a construit cet atelier.
L'atelier de Denis Contagne est traversé de part en part par la lumière. Est-ce que ça dit quelque chose de la manière dont Cézanne s'organisait pour peindre ?
Cézanne a connu un vrai atelier à Paris, rue Égide Moreau, où il a peint le portrait de Vollard. Je pense que c'était sa référence quand il a construit cet atelier. Il sait qu'un atelier pour la peinture a la lumière du Nord,
qui est plus calme, qui est plus grise et qui interfère le moins possible avec les couleurs. Là, il y a deux fenêtres qui ouvrent sur Aix-en-Provence et on voit Saint-Sauveur, qu'il a peint dans plusieurs aquarelles. Je sais que quand il peignait ici les grandes baigneuses, il fermait les volets côté sud et il n'avait la lumière que par la grande verrière qui est ici derrière nous. Il avait sur le côté un petit fenestron qu'il ouvrait pour sortir les tableaux, parce que les grandes baigneuses étaient grandes toiles, qui ne passaient pas la porte, et donc il avait fait une ouverture dans le mur pour sortir les tableaux.
Alors lui qui allait vers le motif, qu'est-ce qui se passait quand Cézanne rentrait dans l'atelier ?
Ça reste très mystérieux, et même dans la nature, quand il était avec Émile Bernard ou quelques amis, il peignait toujours tout seul, il voulait vraiment être tout seul. Alors quand même, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Cézanne est un homme de l'histoire de l'art, il a été au Louvre, il a dessiné, mais toujours il dit, il faut aller dans la nature, la seule maîtresse qui compte, c'est la nature. Et dès 1866, il sait que le travail en atelier n'est qu'un complément du travail qu'il fait sur nature. D'ailleurs ici, on sait qu'il venait tôt le matin, dans les dernières années de sa vie, à 11h il se faisait apporter son repas, il faisait la sieste, il se faisait conduire ensuite sur la rivière de l'arc où il peignait, et puis il rentrait chez lui tôt vers 6-7h, et il se couchait à l'heure des poules vers 8h du soir. Et il se levait vers au moins 5h du matin, c'était un homme très 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 matinal. Donc l'atelier était vraiment, je crois, le laboratoire. Les natures mortes, il ne les faisait pas dehors. Je pense qu'il y a peut-être même des paysages qu'il a complétés, qu'il a travaillés ensuite par des touches de couleurs, par des rapports de tons, par des formes, ici, à l'intérieur de l'atelier. Les grandes baigneuses, il est hors de question de penser qu'il a été regarder les soldats nus se baignant sur les bords de l'arc pour faire ses compositions. Il les a construits en atelier. On voit dans son œuvre, d'ailleurs, petit à petit, comment il construit 3, 4, 5 baigneuses, et puis 2, 3 autres différemment. Puis il assemble ça, et puis ces grands tableaux monumentaux de la fin, qui sont peut-être son grand œuvre. Mmh. Bon, là, il y a un petit peu une reconstitution d'un atelier de Cézanne, tel qu'on peut l'imaginer. Mais il faut savoir que Cézanne, il n'arrivait pas dans la cuisine pour faire une nature morte qu'il avait là sous les yeux. Il travaillait avant, il faisait une installation. Il était très très moderne, il installait ses pièces, et puis finalement la peinture n'est que la mémoire de l'installation qu'il a faite. Voilà, il serait très très contemporain actuellement.
Personne n'est allé plus loin que Cézanne, en fait, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc il y a là une sorte de limite de la peinture, et les peintres vont se demander, qu'est-ce qu'on peut faire après Cézanne ? Il y a après Monet et après Cézanne, c'est les deux grandes possibilités, les deux voies qui semblent ouvertes au début du XXe siècle. Et très vite, en fait, ils vont récupérer Cézanne en faisant taire, à mon sens, ce qu'il y a d'absolument subversif dans son art, qui est la révélation de la pure présence, disons, en soulignant l'aspect formel. Et par là, on pourra dire, et on commencera à le dire dès les années 1920, que Cézanne, en fait, est à l'origine de ce qu'on va appeler l'abstraction géométrique, et il y aura cette lecture de Cézanne qui va tendre à le désincarner, alors que c'est tout le contraire. Cézanne était au contraire, il voulait qu'on sente l'odeur de la pomme, qu'on sente sa présence, qu'elle sorte du tableau tellement elle est réelle.
Pour les contemporains du peintre, ce qui caractérise son œuvre, c'est l'inachèvement. André Masson, les toiles de Paul Cézanne sont-elles vraiment inachevées ?
Certains Cézanne sont nettement inachevés dans ce sens que, pour l'esprit de, je dirais, de tous, une toile, en somme, est inachevée quand on voit encore la toile, quand elle n'est pas entièrement recouverte, n'est-ce pas ? Il travaille un peu comme Corot, il fait ses études, n'est-ce pas ? Il fait des études. C'est-à-dire que ce sont ces toiles que lui certainement considérait comme inachevées, ou comme des, si on veut, comme des études, qui pour nous sont les plus complètes. Et par exemple, à l'exposition, je ferai incidemment allusion à l'exposition d'Aix, nous avions là un portrait de Cézanne, le portrait de Gasquet. Ce portrait était fait en 2 séances. Ce qui veut dire que Cézanne y a consacré quelques heures. Je ne sais pas, le modèle est parti, M. Gasquet est parti en voyage, je n'en sais rien. En tout cas, le tableau est resté là, comme on dirait, inachevé. Or, pour moi, pour mon goût, il est plus achevé que le portrait de Vollard auquel il a consacré une année, plus de 300 séances, et dont il disait lui-même, je ne suis pas mécontent du devant de la chemise. Alors, à quel point il trouvait le tableau inachevé après 300 séances ?
En Bioulès, nous sommes devant le portrait de Gustave Geffroy de Paul Cézanne au musée d'Orsay. Et ce qui me frappe tout de suite, c'est à la fois le caractère massif du personnage, mais en même temps l'inachèvement de ses mains.
Oui, alors la question de l'inachèvement chez Cézanne, c'est, pose la question de l'inachèvement chez tous les grands peintres. Il y a de l'inachèvement chez David, où il y a des parties qui paraissent abandonnées, mais qui sont suffisantes pour permettre de comprendre la totalité du tableau. Et je pense que Cézanne savait lever justement sa main au bon moment pour ne pas hiérarchiser un objet plus qu'un autre. Et dans ce tableau, ce qui est très important, c'est que le personnage, si massif soit-il, est totalement incorporé à tous les éléments qui constituent son bureau. Et on ne peut rien privilégier hiérarchiquement. Les crayons, il y a un affût de crayons, il y a un grattoir, les cahiers, l'encrier, le petit moulage à gauche, les fleurs, tous les livres, la cheminée avec les éléments posés sur le dessus de la cheminée. Tout ça entoure le personnage dans une sorte de montage dans lequel il apparaît et il disparaît. Et là, ce qui est absolument fabuleux dans ce tableau, c'est la maîtrise de la hiérarchie extrêmement complexe de tout ce qui le constitue. Et il y a des rythmes internes d'une extraordinaire subtilité. Et il a bouleversé les lois de la perspective, car c'est quelqu'un qui n'a jamais eu une perspective monoculaire académique, avec des points de fuite tels qu'ils sont décrits dans les manuels de perspective. Et c'est ce qui se passe dans ce tableau. Lorsqu'on regarde la table, on ne voit plus le personnage. Lorsqu'on regarde le personnage, on ne voit plus la table. Il faut se reculer et tout se synthétise. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les peintres cubistes se sont servis de ces déformations pour inventer une peinture, elle, complètement conceptuelle. Alors que Cézanne est le contraire même d'un peintre conceptuel. C'est un peintre dont la peinture est constituée par une succession d'hésitations délicieuses et une retenue spirituelle extraordinaire, et qui demande à la couleur justement de donner finalement une unité à la totalité de ce qu'il veut faire, mais en prenant des risques absolus. Et des peintres tels que Giacometti ou Bonnard sont beaucoup plus proches justement de ce type de recherche que, contrairement à ce qu'on pourrait croire au point évident, que les tableaux cubistes ou les tableaux de Derain ou de Picasso des années 1907, où il y a des tables bancales, des fausses perspectives et j'allais dire du Cézanne doté du confort moderne.
Le portrait suppose d'abord un être familier, c'est Madame Cézanne, ou bien c'est Ambroise Vollard, c'est donc le galeriste qui
Jacques Darulla,
de commercialiser son art, c'est son fils déguisé en arlequin, et puis aussi, alors il est impitoyable, il demande à ses modèles une immobilité, il ne faut pas bouger. Alors, il a une expression merveilleuse, il dit à Ambroise Vollard, mais vous ne devez pas plus bouger qu'une pomme. Hein. Est-ce que ça bouge, une pomme? La pomme étant l'atome grossi qui est par excellence la chose. Enfin, tout est pomme pour Cézanne, hein, par bien des points de vue. Donc il demande finalement à son modèle de devenir chose. C'est-à-dire qu'il il le nie. Il le nie pas tout à fait, mais il le nie dans sa... Il ne cherche pas du tout, selon une tradition classique du portrait, qui est une peinture de l'âme, à rendre compte d'un caractère. Il essaie de rendre compte d'une présence. En quel sens on dit, quand vous êtes en face de quelqu'un, vous sentez qu'il est un peu là, hein, que c'est une présence qui s'impose. Voilà. C'est aussi énigmatique que la montagne Sainte-Victoire en un autre genre. Au fond, pour bien peindre, il faudrait ne penser à rien. Être bête comme chou. Surtout ne pas penser. C'est en pensant trop qu'on fait des mauvais tableaux. Arriver à être bête et à prendre conscience de la muette présence du monde. Et quand il... Alors pour ça, autoportrait, le mot auto voudrait dire donc que ça renvoie à soi-même. Il n'y a aucune réflexion. Il a beau se voir dans le miroir. En fait, il ne se voit pas dans un miroir, comme le dit très bien dans un lettre célèbre le poète Rainer Maria Rilke. Il se voit comme un chien. Et Rilke dit, il se regarde dans le miroir, donc... avec la placidité d'un chien qui passerait devant une glace et qui dirait « Tiens, voilà un chien ». Voilà, c'est exactement ça. Et un chien, c'est bête. Mais c'est très profond de se voir comme une bête.
Les questions philosophiques polémiques liées à l'œuvre de Cézanne ont été soulevées non pas par la philosophie elle-même, mais par la réflexion des poètes et la réflexion de peintres.
Mauro Carbone.
Et le premier, on peut dire, qui a été justement Rainer Maria Rilke. Mmh. C'est-à-dire l'exigence que Rilke voit dans la peinture cézannienne de revenir à l'objet, c'est l'exigence que Merleau-Ponty soulignera à son tour dans Le Doute de Cézanne, 35 ans après, terminé déjà en 1942. Alors, Merleau-Ponty écrit « La table de travail dans le portrait de Gustave Geffroy s'étale dans le bas du tableau contre les lois de la perspective ». Et c'est ça la raison principale de l'intérêt de Merleau-Ponty pour la peinture de Cézanne. Pourquoi ? Parce que il voit dans les tableaux de Cézanne une manière différente de décrire notre rapport au monde et donc l'occasion pour développer une pensée philosophique qui se détache du dualisme sujet-objet, tout comme Cézanne s'est détaché de la perspective planimétrique basée sur l'idée de l'opposition et de la séparation entre le spectateur et le spectacle.
Mais Rilke n'est pas tout seul, Mauro Carbone. D.H. Lawrence, poète anglo-saxon en 1929, l'auteur de L'amant de Lady Chatterley, dit « La pomme de Cézanne fait mal, elle fait hurler les gens de douleur ».
Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire justement que ces pommes ont une qualité physique que les images des choses avaient perdu pour les hommes occidentaux. Et donc, il y a eu pour David Herbert Lawrence, dans la culture occidentale, un refoulement parallèle de la pommeté de la pomme tout comme de la corporité de l'homme. Et c'est justement cette pommeté de la pomme, c'est David Herbert Lawrence qui parle de « the appleness of apples », que Cézanne a su nous montrer dans le rapport sensible que la pomme a avec notre expérience corporelle. Et cette expérience corporelle, dans son lien avec l'expérience sensible du monde, qui intéresse la phénoménologie en particulier en ce qui concerne l'œuvre cézannienne.
Vincent Biulès, nous sommes là au musée d'Orsay devant la femme à la cafetière dont vous avez dit qu'à 16 ou 17 ans, elle vous attendait.
Oui, c'est vrai. J'ai été complètement accaparé par ce tableau qui a été pour moi une révélation.
Ce qui est formidable dans ce tableau, au fond, plus on le regarde, c'est l'innocence qu'il... c'est totalement... C'est un œil lavé, c'est un être complètement lavé, rédimé. C'est quelqu'un de totalement purifié par son regard. C'est ça qui est magnifique. Cézanne est purifié par la qualité de son regard. Et c'est là où on perçoit aussi à quel point Cézanne est un prodigieux coloriste. Il n'y a pas un centimètre carré de cette surface qui ne soit négligé, qui soit abandonné. Cézanne peignait avec un scrupule extraordinaire, sûrement très lentement, en suspendant son geste de manière à ce que aucune impétuosité ne vienne troubler sa recherche
de l'accord coloré dans sa tension la plus grande.
Alors cette femme à la cafetière, Vincent Bioulès, est drapée de bleu. Le poète Rilke avait loué le bleu de Cézanne. Il disait que c'était un bleu ouaté.
Oui, et puis ensuite, toute la coloration des portraits, des figures, est une coloration dont Cézanne a eu l'expérience sur le motif. Et il y a dans ce tableau la pureté de l'air, la transparence de l'air dans lequel il a baigné, qu'il pouvait contempler depuis son atelier du chemin des Louvres, lorsqu'il quittait la rue Boulégon pour aller travailler dans la campagne. Et ces bleus, cette espèce on dirait une sorte de, pas de cuirasse, mais de vêtement de fer, c'est d'une puissance extraordinaire, les manches, les mains, c'est magnifique.
À Ambroise Vollard, Aix, 9 janvier 1903. Cher monsieur Vollard, je travaille opiniâtrement. J'entrevois la terre promise. Serais-je comme le grand chef des Hébreux? Si je suis prêt fin février, je vous enverrai ma toile pour l'encadrer et la diriger vers quelque port hospitalier. J'ai dû lâcher vos fleurs, dont je ne suis pas bien content. J'ai un grand atelier à la campagne. J'y travaille, j'y suis mieux qu'en ville. J'ai réalisé quelques progrès. Pourquoi si tard et si péniblement? Je regrette la distance qui nous sépare, car plus d'une fois, j'aurai recours à vous pour m'étayer moralement quelque peu. Je vis seul. Les Gasquet, les De Molins sont inénarrables. C'est le clan des intellectuels. De quel tonneau, bon Dieu! Si je vis encore, nous reparlerons de tout ça. Merci pour votre bon souvenir, Paul Cézanne.
Il est frappant, par exemple, que dans les grandes œuvres de Cézanne, celles qui font sa gloire, hein, et qui ont donc entraîné toute la mutation de l'art moderne au début du XXe siècle, il est frappant, par exemple, qu'il n'y a pas de personnage. C'est une vision qui est une vision sans anecdote. C'est une vision qui recherche une forme d'éternité. C'est même assez difficile, au fond, quand on regarde les tableaux de Cézanne, de donner une heure, de dire voilà, c'est la Sainte Victoire à midi ou c'est le Jade Bouffant à 5 heures du soir, c'est assez difficile.
Cézanne a peint la Sainte Victoire jusqu'à la fin de sa vie. On sait que le 15 octobre, il vient peindre sur le motif et qu'il est saisi par un orage. Et qu'il est ramassé comateux au bord d'un chemin. Est-ce que c'était en peignant Sainte-Victoire? On pense que c'est un lieu tout proche, qui est le cabanon Jourdan, au pied duquel Cézanne donc a été retrouvé pratiquement. On le ramène chez lui, il survit encore quelques jours. Il revient une fois encore à l'atelier où il touche de son pinceau le jardinier Vallier, et la sœur de Cézanne écrit au fils de Cézanne: viens vite, père mourant. Et Cézanne mourra donc dans son appartement à Aix-en-Provence la nuit du 22 au 23 octobre 1906. Il voulait mourir le pinceau à la main. Il voulait surtout pas mourir, de longueillesse et maladie, comme il a vu des gens auprès de lui mourir. Donc il n'avait que la peinture à faire, il voulait mourir en peignant. Je crois qu'il a été exaucé.
Il y a chez Cézanne, je voudrais ajouter cela, l'idée que le temps s'écoule, que les choses disparaissent. Il le dit plusieurs fois, il le dit à Gasquet, il le dit, je crois, à Louis Orange. Il a un sentiment du passage du temps angoissé, d'une usure irrémédiable par le temps. Le temps n'amène pas un progrès dans l'esprit de Cézanne, sauf dans le travail. Sinon, c'est une décomposition constante.
Aix, 15 octobre 1906. Mon cher Paul, tout passe avec une rapidité effrayante. Je ne vais pas trop mal. Je me soigne, je mange bien. Je viens te prier de me commander 2 douzaines de pinceaux en émeloncils, comme ceux que nous avions commandés l'an passé. Tous mes compatriotes sont des culs à côté de moi.
j'ai dû te dire que j'ai reçu le cacao. Je t'embrasse, toi et maman, ton vieux père, Paul Cézanne.
Vous avez comparé un tableau de Cézanne à un des derniers chorales de Bach. Il y a quelque chose de musical chez lui ?
Si j'ai dit ça, c'est que je pense que tout à fait à la fin de sa carrière, Cézanne ne peignait plus de paysage proprement dit. Il peignait la genèse, il peignait la création du monde et la succession des montagnes Sainte-Victoire qu'il a pu faire depuis l'atelier du chemin des Lauves constituent une sorte d'hydme quasiment religieux à la création du monde. Cézanne était un homme qui était religieux, mais il est parvenu à une hauteur de pensée et à une élévation du propos qui est comparable aux œuvres de Jean-Sébastien Bach.
Vous dites aussi, Vincent Bioulès, que Cézanne, pour vous, c'est aussi la joie absolue.
C'est une joie conquise. La joie n'est pas le bonheur. La joie est une récompense qui nous traverse. La joie nous est donnée et le bonheur, nous pouvons le secréter nous-mêmes par notre intelligence et notre sensualité.
Le musée Granet et sa boutique ferment leurs portes. Veuillez, s'il vous plaît, vous diriger vers la sortie. Merci de votre visite et bonne soirée.
Ilias Poulos, vous avez dans ce musée Granet à Aix, vous avez voulu nous amener vers votre Cézanne, celui que vous avez choisi pour nous.
Oui, c'est une nature morte de 1865. Et chaque fois que je me trouve devant un tableau pareil de Cézanne, il y a quelque chose qui ça m'étonne. Je trouve quelque chose de très, très contemporain. Une démarche contemporaine. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec ça, devant ce tableau? Et si on prend, par exemple, une touche de pinceau de Cézanne, si on isole des restes de tableau, c'est autonome. Moi, je vois quelque chose de très, très contemporain. Je vois des touches, je vois les traces de l'artiste. Et chaque fois que moi, je vois des tableaux de Cézanne, je vois, comment on dit ça, son âme. Je vois son âme, la façon qu'il laisse son âme à travers les pinceaux sur le tableau. Et moi, j'ai besoin d'isoler quelquefois ce morceau de son âme pour l'amener vers moi, pour faire ma lecture à moi, comme un artiste de 2013, en disant, oh là, il a fait ça à l'époque. Mais regardez, c'est tout l'univers. On voit la façon qu'il travaille, le blanc. Comment il fait ça? On a grandi tout l'art contemporain là.
Paul Cézanne, une émission de Christine Le Cerf et Jean-Claude Loiseau. Avec Vincent Bioulès, artiste peintre, Mauro Carbone et Jacques Dariula, philosophe, Denis Coutagne et Bruno Elie, conservateur, Alain Madeleine Perdria, essayiste, et Ilia Poulos, artiste plasticien. Remerciements au libraire-galeriste Alain Père et à l'artiste plasticienne Lia Lapiti. Lettre de Cézanne, lue par Laurent Manzoni. Archivina Catherine Louis. Attachée d'émission Laurence Genepin. Prise de son Yvan Turc et Yves Lehors. Mixage Claire Levasseur.
Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur franceculture.fr, un site préparé et enrichi par Daphné Abgral et Maud Jussaume. À 16h, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.